Chers camarades, chers amis, les élections municipales qui viennent sont la première élection nationale depuis l'arrivée de Hollande au pouvoir. Vous le savez certainement tous, vous qui êtes ici ce soir, nous ne pensons pas, nous n'avons jamais pensé que les élections pouvaient changer la société. Les grandes avancées sociales, les grands progrès pour le monde du travail, ils ne sont jamais sortis des urnes, mais toujours d'une confrontation brutale entre les travailleurs et leurs exploiteurs, toujours d'une situation où le rapport de force devient favorable aux travailleurs parce qu'ils sont massivement descendus dans la rue, parce qu'ils ont massivement utilisé ce qui est leur seule arme réelle et efficace, la lutte et la grève. Mais les élections sont tout de même l'occasion de faire un geste politique. Elles offrent tout simplement l'occasion de dire son dégoût, son écœurement, sa colère. Et si nous avons voulu nous présenter dans un certain nombre de villes, si nous nous présenterons dans 2 mois dans toutes les circonscriptions aux élections européennes, c'est justement pour pouvoir permettre à tous ceux qui ont envie d'exprimer leur colère de le faire. Vous savez, aux élections, il n'y a pas 36 possibilités. Voter pour le Parti socialiste, l'UMP et leurs alliés divers, c'est une façon de dire à ceux qui se relayent pour nous presser comme des citrons depuis des décennies, remettez-nous ça, on n'en a pas encore eu assez. Voter Front National, c'est dire que plutôt que de s'en prendre aux riches, on préfère s'en prendre aux plus faibles, aux étrangers, aux chômeurs, aux Roms. Voter Front National, c'est dire qu'on veut que les riches restent riches, mais que l'on aimerait que le pouvoir tape encore plus fort sur les pauvres. Il y en a beaucoup qui vont s'abstenir. Ceux-là diront simplement qu'ils n'ont rien à dire. Mais ce que j'espère, c'est que beaucoup choisiront de voter lutte ouvrière. Voter lutte ouvrière, cela ne changera pas la situation du monde du travail, mais cela permettra de dire, sans aucune ambiguïté, qu'on rejette le Parti socialiste sans cautionner ni la droite, ni l'extrême droite. Cela permettra de dire qu'on est convaincu que tôt ou tard, le monde du travail se lèvera et sera capable d'imposer lui-même, par ses luttes, un changement radical dans la société. Alors camarades, pour toutes ces raisons, aux municipales comme aux européennes, votez et faites voter lutte ouvrière. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, a tout récemment émis une nouvelle revendication. Il a demandé que le gouvernement enterre purement et simplement tous les projets de loi qui seraient susceptibles, je le cite, de stresser les patrons. Alors forcément, on se pose la question. Qu'est-ce qui, dans les projets du gouvernement, stresse tellement Pierre Gattaz et ses collègues? Eh bien, il s'agissait d'une proposition de loi, qui d'ailleurs a été votée depuis, et qui fixe quelques règles en matière d'encadrement des stages en entreprise. Pour vous donner un exemple de la radicalité de ce texte, il serait question d'obliger les patrons, et là, tenez-vous bien, à faire bénéficier les stagiaires en entreprise de chèques restaurants. Et voilà ce qui suffit à Gattaz pour se fendre d'une conférence de presse, pour demander, pour exiger que le gouvernement arrête de stresser les patrons. En utilisant le bon vieux chantage, si vous faites ça, on ne créera pas d'emploi et même on délocalisera, probablement dans les pays où l'on n'est pas obligé de nourrir les stagiaires. Ce n'est qu'une anecdote, mais elle en dit long. Le grand patronat est tellement habitué à dicter ses ordres au gouvernement, à voir ses moindres désirs exaucés avant même d'être formulés, tellement habitué à claquer des doigts et à voir la clique des ministres se mettre au garde à vous dans la seconde, qu'il s'estime tout permis. Et pourquoi se priverait-il? Pour paraphraser l'expression célèbre, tant que le patronat gagne, il continue de jouer. Depuis que Hollande est arrivé au pouvoir il y a bientôt 2 ans, il n'a pas pris une seule mesure sérieuse pour empêcher le grand patronat de nuire. Les seules mesures qu'il a prises ont été des mesures d'affichage, inutiles, dérisoires, mais qui ont parfois déclenché quand même quelques froncements de sourcils au MEDEF. Ce qui suffit en général au gouvernement pour reculer avec des plates excuses. Il suffit de se rappeler la promesse de Hollande en février 2012, faite devant les ouvriers de Florange, lui président, Il ferait une loi interdisant les entreprises rentables de fermer une usine. Il a fallu attendre un an après l'élection, pour que la loi dite « loi Florange » soit présentée devant le Parlement, déjà vidée de toute substance et purement symbolique. Après être passé à la moulinette de députés aussi lâches et aussi serviles que les ministres, elle a été encore un peu plus édulcorée jusqu'à finalement être votée il y a une dizaine de jours. Que reste-t-il de la promesse de Hollande ? Rien, strictement rien. Il n'est plus question d'empêcher, d'interdire quoi que ce soit. Seulement de demander aux patrons qui veulent fermer un site de bien vouloir faire semblant de chercher un repreneur, mais pas trop longtemps, seulement pendant 3 mois. Si au bout de 3 mois, ils n'ont pas trouvé, alors le gouvernement considérera qu'ils ont fait assez d'efforts comme ça et ils pourront tranquillement jeter sur le carreau autant de travailleurs qu'ils le voudront. Évidemment, une fois voté ce texte, la droite et le patronat ont poussé des hurlements. Les députés de l'UMP allant jusqu'à parler, je cite, « d'atteinte inouïe au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre ». Quelle comédie ! Plus que jamais, le monde des politiciens au service de la bourgeoisie ressemble à un théâtre de marionnettes où chacun récite une partition bien apprise en essayant d'y mettre de la conviction. Au Parti socialiste, on qualifie n'importe quel texte inutile, comme la loi Florange, d'avancée sociale historique. À droite et au MEDEF, on hurle qu'il s'agit de lois liberticides qui vont conduire les entreprises à la ruine et le pays avec. Dans ce système où se succèdent au pouvoir des hommes et des femmes qui sont tous, sans exception, au service des grands capitalistes, il faut bien que chacun fasse un peu de cinéma pour donner le change. Si les députés de l'UMP se mettaient à voter à l'unanimité les lois proposées par le PS, qu'ils auraient pourtant aussi bien pu écrire et signer eux-mêmes, il leur serait évidemment plus compliqué aux prochaines élections de se présenter comme une force d'alternance. Cela fait des décennies que le système politique fonctionne ainsi. La gauche succède à la droite aux affaires, puis la droite à la gauche, et ainsi de suite. Avec quelques changements dans les mots, mais une politique fondamentalement semblable. Crise oblige, le patronat s'est fait plus exigeant ces dernières années. Et il est revenu au Parti socialiste, parce que c'est lui qui était au pouvoir en ce moment, de prendre depuis 2 ans les mesures les plus rétrogrades, les plus régressives que l'on ait vues depuis bien longtemps. Je parle par exemple de l'ANI, cet accord pourri que les socialistes ont transformé en loi et qui donne la possibilité au patronat, comme il le réclamait depuis si longtemps, de pouvoir baisser les salaires en toute légalité ou de se débarrasser de la notion même de contrat à durée indéterminée. Tout cela au nom de l'adage capitaliste bien connu, celui que tous les gouvernements nous répètent depuis des lustres, selon lequel les profits d'aujourd'hui font les emplois de demain. Il faut donc favoriser les profits. En réalité, ça fait des années que les profits explosent, mais le chômage aussi. La seule chose que font les profits d'aujourd'hui, ce sont des riches de plus en plus riches et des travailleurs de plus en plus pauvres. C'est ça et rien d'autre. Et puis, il y a le refrain répété 1000 fois par jour par le patronat, les ministres, tous les partis politiques du Parti socialiste au Front national, par la presse et un bon nombre de syndicats, sur la compétitivité et le coût du travail. Pas un jour, pas une heure sans qu'on entende ces mots, sans qu'on nous répète, à nous, les travailleurs, que nous coûtons trop cher, que les entreprises sont bien obligées de fermer et d'aller s'installer ailleurs, vu le manque de compétitivité des travailleurs en France, et ainsi de suite. Mais le prétendu coût du travail, c'est un mensonge, c'est de la propagande patronale, car le travail ne coûte rien aux capitalistes, il ne leur fait que rapporter, voilà la vérité. Car si embaucher des travailleurs coûtait plus cher aux patrons que cela leur rapporte, cela ferait belle lurette qu'ils auraient fermé la dernière usine, le dernier bureau, le dernier hypermarché dans ce pays. Quoi qu'en disent les socialistes, les patrons ne sont pas des dames patronesses qui utilisent leur capital pour faire des bonnes œuvres et offrir de l'emploi. Faire tourner une entreprise, pour eux, c'est une façon de placer leur capital. Et un placement, c'est fait pour rapporter, pas pour coûter. Les capitalistes, il y a au moins une chose qu'ils savent, qui est inscrite dans leur code génétique. C'est que l'argent placé doit rapporter, faute de quoi il faut le placer ailleurs. Ça, tous les patrons le savent, y compris et surtout ceux qui pleurnichent à la télévision pour dire que le travail leur coûte trop cher en France. C'est Jérémyade, les travailleurs doivent les prendre pour ce qu'elles sont, du pipeau, du baratin, de la propagande, des mensonges que nous n'avons aucune, mais vraiment aucune raison de croire. Pas plus que nous devons nous faire avoir par la propagande sur la compétitivité. Que les patrons parlent de compétitivité, c'est normal, c'est leur métier. Faire jouer la concurrence entre les travailleurs d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une usine à l'autre, parfois d'un atelier à l'autre, pour tirer les salaires vers le bas, c'est ce qu'ils font depuis qu'ils existent. C'est comme ça qu'ils font du profit depuis que les premières manufactures industrielles ont vu le jour. Mais c'est précisément pour cela que le mouvement ouvrier a toujours combattu cette notion, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est pour cela que le mouvement ouvrier a défendu inlassablement l'union entre les travailleurs contre la concurrence, l'internationalisme contre le patriotisme, la conscience d'appartenir à une même classe contre les nationalismes, tous les régionalismes et tous les communautarismes. Alors oui, parler de compétitivité quand on se dit de gauche ou qu'on se prétend dirigeant syndical, et à plus forte raison, dirigeant de confédération syndicale, c'est piétiner, et je pèse mes mots, toutes les valeurs pour lesquelles le mouvement ouvrier s'est battu pendant des décennies. C'est favoriser la concurrence entre les travailleurs, et c'est criminel, parce que rien n'arrange plus le patronat que de laisser tranquillement les travailleurs se battre entre eux pendant que les capitalistes regardent grossir leurs magots. Le patronat, le gouvernement, la presse, les syndicats veulent nous vendre la compétitivité française. Montebourg veut nous fourguer son patriotisme économique. Eh bien, cela, à cela, nous, nous préférons et nous préférerons toujours à lutte ouvrière affirmer fièrement la devise du mouvement communiste prolétaire de tous les pays. Unissons-nous. Alors oui, qu'elle utilise contre les travailleurs la soi-disant lutte contre le chômage, celle contre le coût du travail ou pour la compétitivité, l'alternance entre la gauche et la droite est un jeu de dupes qui ne sert depuis bien longtemps qu'à tromper les travailleurs. Pourtant, il faut bien dire que depuis l'arrivée de Hollande au pouvoir, il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est que le Parti socialiste ne cherche même plus à faire semblant d'être de gauche, ne cherche même plus à se faire passer pour le défenseur du monde du travail comme c'était le cas avant. Non, le problème du Parti socialiste aujourd'hui, c'est plutôt de rompre une fois pour toutes avec cette image et de s'affirmer comme le porte-parole conscient, assumé du grand patronat. Depuis la visite du Premier ministre Jean-Marc Ayrault à l'université d'été du MEDEF l'été dernier, jusqu'au discours de vœux de Hollande au mois de janvier, tout est fait pour courtiser les patrons, pour leur faire de véritables déclarations d'amour et de confiance. Hollande, ayant même poussé le zèle lors de son voyage aux États-Unis, à prendre dans ses bras pour lui faire un câlin devant les caméras un représentant des jeunes entrepreneurs. Je parle de ce voyage lors duquel le patron du MEDEF, Gattaz, avait directement sa place dans l'avion présidentiel. Il est vrai qu'il est courant que les chefs d'État emmènent avec eux de grands patrons dans leurs déplacements à l'étranger. Mais le patron des patrons, c'était, il faut le dire, encore plus clair en termes de symbole. Bien entendu, sur le fond, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Nous sommes en 2014. Cela fait donc un siècle, tout juste, cette année, que le Parti socialiste a officialisé son changement de camp. Car il y a 100 ans, tout juste, à l'été 1914, les socialistes de France et d'Allemagne commettaient leur première et une de leurs pires trahisons. Ils soutenaient leurs bourgeoisies respectives et les gouvernements dans le déclenchement de la guerre mondiale et envoyaient des millions de travailleurs s'entremassacrer dans les tranchées. Les travailleurs n'ont donc absolument rien à attendre de ces gens-là. Quant à Hollande, il est évident que depuis le jour où il a commencé sa carrière politique en entrant à l'ENA, il n'a jamais rien été d'autre qu'un homme de la bourgeoisie, bien formaté, bien cadré. Alors je le dis en passant, tous ceux qui, du parti de gauche au parti communiste, ont cherché à faire croire aux travailleurs en mai 2012 que Hollande allait représenter un changement, tous ceux qui ont appelé à voter pour lui en prétendant « le changement c'est maintenant », et même s'ils ont plus ou moins pris leur distance aujourd'hui, eh bien tous ceux-là ont menti sciemment, consciemment. Et ça, camarades, nous ne devons pas l'oublier. Oui, Hollande a toujours été un homme de la bourgeoisie. Mais il n'empêche qu'à la différence d'avant, il ne cherche plus du tout à s'en cacher. Il s'en vante, au contraire. Évidemment, il ne s'agit pas de convaincre les patrons. Eux, ils savent depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'il n'y a rien à craindre du Parti socialiste, que l'on peut toujours compter sur eux pour mener une politique anti-ouvrière, déclencher une guerre coloniale, réprimer des grèves, et j'en passe. Non, ce n'est pas aux patrons que sont destinées les déclarations d'amour du Parti socialiste aux capitalistes. C'est au monde du travail. C'est à tous ceux qui sont frappés par la crise, par le chômage, par la cherté de la vie, et à qui cette situation pourrait donner envie de se révolter contre le patronat. C'est à eux que le Parti socialiste veut faire croire qu'il n'y a aucun espoir de ce côté-là. C'est à toute la population que ce parti veut montrer qu'en dehors du système capitaliste, il n'y a point de salut, que c'est la grande bourgeoisie et elle seule qui a les clés, qu'il n'y a aucune perspective que de s'en remettre à son beau vouloir, et qu'il n'y a donc pas d'autre politique possible que de faire ce qu'ils font, à savoir démolir la condition ouvrière au nom du profit. Il y a un siècle, les curés tentaient d'endormir la classe ouvrière, de lui faire renoncer aux luttes, en lui disant de s'en remettre au bon Dieu pour améliorer son sort. Aujourd'hui, la gauche au pouvoir joue le même rôle, sauf qu'à la place du bon Dieu, elle a mis le patronat, devant lequel elle se prosterne en demandant aux travailleurs de faire de même. Voilà le vrai rôle que joue le Parti socialiste. L'ensemble de la société, toutes les couches de la population, à l'exception des riches, est touchée d'une façon ou d'une autre par les conséquences de la crise, et surtout par les conséquences du choix du gouvernement de faire payer cette crise exclusivement aux classes populaires. La crise économique est là, bien réelle, profonde et durable. Elle dure sous une forme ou sous une autre depuis plus de 30 ans, mais elle s'est fortement aggravée depuis l'effondrement bancaire de 2008. Face à une telle crise, les gouvernements successifs refusent de faire payer les responsables, c'est-à-dire les grands industriels et les banquiers. Ils font donc payer tout le reste de la société, c'est-à-dire tous ceux qui n'y sont strictement pour rien. C'est cette politique qu'applique Hollande, exactement comme Sarkozy l'a fait avant lui, avec la seule différence que Hollande le fait avec un peu plus de violence encore, la crise s'étant aggravée. Pour maintenir le niveau des profits du grand patronat, le gouvernement a ouvert en grand les robinets de l'argent public, sans chercher à s'en cacher d'ailleurs. Après le crédit impôt compétitivité emploi, un cadeau de 20 milliards par an au patronat, voici maintenant le pacte de responsabilité. Autre nom ronflant, mais même système. Donner de l'argent au patron directement ou sous forme d'exonération de cotisations, de taxes ou d'impôts. Les patrons bénéficiaient déjà de plusieurs dizaines de milliards de mesures de soutien, allant des exonérations de cotisations sur les bas salaires, au crédit impôt recherche, en passant par des baisses de TVA ciblées, les aides directes des collectivités locales, etc., etc. Voilà maintenant que Hollande leur a promis la suppression pure et simple des cotisations sur les allocations familiales. Le problème, c'est que les finances publiques ne sont pas un puissant fonds et que ce qui ne rentre pas sous forme de cotisations patronales, eh bien, il faut aller le chercher ailleurs. Ou bien sous forme de rentrées supplémentaires, c'est-à-dire d'impôts et de taxes supplémentaires pour la population, ou bien sous forme d'économies sur le budget de l'État. pour financer le fameux pacte de responsabilité, Hollande a chiffré les choses. Il faudrait réaliser 50 milliards d'euros d'économies. Des économies sur le budget de l'État, dit comme cela, ce n'est qu'une formule que les ministres utilisent beaucoup. Ils arrivent même à enrober cela de façon à ce que cela passe pour quelque chose de positif, qui bénéficiera à tout le monde. Après tout, tout le monde cherche à faire des économies, à ne pas se montrer trop dépensier. Le gouvernement utilise même le terme de gestion vertueuse des affaires publiques, en expliquant qu'il fait la chasse aux dépenses inutiles. Et là encore, c'est une escroquerie. Or, ce n'est pas qu'il n'existe pas des tas de dépenses inutiles au niveau de l'État. Le mouvement ouvrier a toujours défendu l'idée de gouvernement à bon marché. La Commune de Paris, il y a un siècle et demi, avait commencé à le mettre en application. L'État coûte cher, très cher, parce que sa principale fonction est de défendre les intérêts de la bourgeoisie contre le reste de la population, que cette bourgeoisie est une classe ultra-minoritaire. Cela impose l'existence d'un appareil d'État coupé de la population, extrêmement lourd, pesant, pléthorique. Évidemment, si la société était dirigée par les travailleurs eux-mêmes, croyez-moi, cela coûterait beaucoup, beaucoup moins cher et ce serait autrement plus efficace. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas cela que pensent le Parti socialiste et l'UMP quand ils parlent de faire des économies. Les 50 milliards que le gouvernement va économiser pour les offrir au patronat, il va les prendre directement sur les budgets sociaux, les budgets des services publics, les budgets indispensables à la bonne marche de la société. Ces 50 milliards d'économies, cela voudra dire encore des places en crèche en moins, des lits d'hôpitaux qui ferment quand ce ne sont pas des hôpitaux entiers, des bureaux de poste, des classes d'école et des lignes de chemin de fer locales supprimées. Cela voudra dire des possibilités de se soigner qui disparaîtront pour les plus pauvres. Cela voudra dire les collectivités locales encore un peu plus étranglées par la diminution des dotations, avec tout ce que cela suppose de services en moins pour la population. C'est déjà le cas depuis des années, et la chose que promet le gouvernement à la population, c'est que cela va empirer. Les catégories les plus fragiles de la population, les malades, les handicapés, les personnes âgées, voient toutes les aides, déjà maigres, qui leur étaient octroyées diminuer année après année. Faute de budget, les pouvoirs publics renoncent à toutes sortes d'investissements utiles, voire indispensables. On ne peut pas en dresser la liste, ce serait interminable, mais combien de projets utiles ont ainsi été remisés ? Le schéma national des infrastructures de transport, qui prévoyait de construire enfin des lignes de chemin de fer permettant de désenclaver certains territoires, a été enterré, trop cher. Tout comme des dizaines de projets de transport urbain qui ont été abandonnés parce que l'État a annoncé qu'il supprimait les subventions aux communes dans ce domaine. Tout récemment, le 26 février, le gouvernement a annoncé qu'il remettait à plus tard l'obligation de mettre les lieux publics en accessibilité pour les personnes handicapées. Initialement prévue pour février 2015, cette obligation a été repoussée de 6, voire de 9 années supplémentaires. Tant pis pour les handicapés, pour qui aller à la poste, à la mairie ou prendre les transports en commun restera un cauchemar. Il en va de même dans tous les domaines touchant à la gestion publique. Au XXIe siècle, dans un des pays les plus riches du monde, il y a aujourd'hui encore 140 000 personnes qui dorment dans la rue et 3,5 millions de gens qui vivent dans des logements insalubres, des chiffres qui s'aggravent d'année en année. Et je ne parle pas des bidonvilles qui ont refait surface depuis quelques années sur les bords des autoroutes et des périphériques. Que fait le gouvernement ? Rien. Il a certes promis la construction de logements sociaux, en nombre, mais cette promesse est restée lettre morte et l'année dernière, le nombre de logements sociaux a même été en forte baisse par rapport aux années précédentes. Et cela va s'aggraver. Car, économie oblige, la nouvelle réforme de la politique de la ville, votée début février, prévoit de réduire de 2500 à 1300 le nombre de quartiers prioritaires, c'est-à-dire de quartiers bénéficiant d'aides de l'État pour rénover ou bâtir des logements. Autant dire que les quartiers qui sont totalement à l'abandon vont le rester. Voilà ce qu'est une gestion vertueuse de l'argent public pour ceux qui nous gouvernent. Tout l'argent économisé pour être offert à la grande bourgeoisie, sera de l'argent en moins consacré au plus grand nombre. Chaque réforme engagée, c'est une réforme qui fait régresser les droits des travailleurs, des chômeurs, des assurés sociaux, des retraités. Le gouvernement socialiste a réussi à faire reculer l'âge de la retraite plus encore que l'avait fait Sarkozy. Il a réformé le code du travail pour rendre les licenciements plus faciles et permettre les baisses de salaire. Que va-t-il satisfaire maintenant comme exigence du MEDEF ? Supprimer les indemnités chômage ? Supprimer le SMIC ? Malheureusement, sur ces sujets, leur imagination est sans limite et peu importe aux socialistes les conséquences de cette politique sur toute la population. Elles sont pourtant terribles. Les conséquences économiques de la crise, tout comme les conséquences politiques de la trahison des partis de gauche, sont un cancer qui ronge toute la société. Quand la vie est dure, quand le spectre du chômage hante la vie de chacun, quand les fins de mois difficiles arrivent chaque mois un peu plus tôt, quand on ne sait déjà plus comment on va payer les factures, le médecin, la cantine, les traites des crédits, et quand arrive en plus une feuille d'impôt deux fois plus lourde que l'année précédente, il est facile de céder à la démoralisation. La misère et le chômage sont des terreaux favorables pour voir pousser les idées les plus réactionnaires, et elles poussent d'autant plus facilement que les partis de gauche eux-mêmes les encouragent. Faute de vouloir désigner les vrais responsables de la crise et du chômage, les socialistes eux-mêmes en sont à s'abaisser au niveau du Front National pour désigner du doigt les étrangers, les Roms, les fonctionnaires, les assurés sociaux comme boucs émissaires. Les opinions qui tiennent le haut du pavé aujourd'hui sont celles de la droite et de l'extrême droite. Toutes les idées progressistes reculent, à tel point aujourd'hui que les forces les plus réactionnaires ne craignent plus de descendre dans la rue pour réclamer par dizaines de milliers la suppression du droit à l'avortement ou pour condamner le fait qu'on tente d'apprendre aux enfants, dès l'école, à ne pas mépriser les femmes. Oui, les idées les plus crasseuses ressortent aujourd'hui des poubelles et des égouts. Je parle ici des idées d'un Dieudonné et de ses délires antisémites, d'un Soral qui essaye de se faire passer pour un révolutionnaire alors qu'il se dit ouvertement national-socialiste. Je parle de ces crânes rasés qui encadrent les prêtres en soutane et cherchent à molester le personnel soignant dans les hôpitaux qui pratiquent l'avortement. Et il n'est pas certain qu'un bon nombre de gens dans la petite bourgeoisie, enragés par le fait qu'eux aussi sont frappés de plein fouet par le gouvernement qui préfère les ruiner plutôt que de toucher un cheveu des grands capitalistes, n'aient pas envie demain de passer eux aussi à l'action violente et d'aller mettre le feu à des camps de Roms, à des synagogues, à des mosquées ou à des locaux syndicaux. Car des groupes et des militants d'extrême droite, des crânes rasés, des curés intégristes, des néo-nazis, il y en a toujours eu dans ce pays. Mais ils n'ont que rarement réussi à entraîner des masses derrière eux. Mais si la politique des gouvernements continue de menacer de ruine des pans entiers de la population, jusqu'à y compris des commerçants, des petits patrons, des artisans, rien ne dit que ceux-ci ne se sentiront pas très vite attirés par ces groupes d'extrême droite qui ne leur prêcheront pas, eux, la résignation. Et rien ne dit que certains travailleurs, ne supportant plus la vie dans des cités gangrénées par la pauvreté, la violence, la drogue et les trafics en tout genre, ne tombent pas aussi dans leur filet. Voilà où l'on en est aujourd'hui. Voilà le résultat non seulement de la crise économique, mais aussi de la politique des partis réformistes qui ne méritent depuis bien longtemps le nom de partis ouvriers. Car seuls de véritables partis ouvriers seraient capables de donner des perspectives non seulement aux travailleurs et aux chômeurs, mais à toutes les couches sociales qui sont, d'une façon ou d'une autre, victimes du grand capital. Voilà aussi pourquoi il est indispensable, vital, de maintenir vivantes les idées du mouvement ouvrier révolutionnaire et de travailler à le faire renaître. Année après année, les gouvernements successifs nous promettent que c'est la dernière année d'efforts, qu'après la pluie viendra le beau temps, qu'il faut relancer la croissance avant d'en recueillir les fruits, et ainsi de suite. Mais cela ne s'arrête jamais. Au contraire, ça s'aggrave chaque année un peu plus. Le patronat n'a aucune raison de cesser de cogner tant qu'il ne rencontre pas de résistance. Il ne faut jamais oublier que si la journée de travail n'est plus de 16 heures aujourd'hui, si les enfants ne travaillent plus dans les usines à 5 ans, s'il existe des syndicats et des congés payés, c'est parce qu'il y a eu des luttes pour l'obtenir. S'il avait fallu attendre le bon vouloir des patrons, rien n'aurait changé et les choses en seraient encore là aujourd'hui. Et à ceux qui en doutent, il suffit de rappeler que les mêmes patrons qui possèdent les 9 dixièmes de l'économie de SPI possèdent également des usines dans les pays les plus pauvres du monde, du Bangladesh au Vietnam, du Mexique à Haïti, et que ces patrons bien propres sur eux, qui passent ici à la télé pour pérorer sur la responsabilité sociale des entreprises et sur le dialogue social exemplaire, font travailler des ouvriers, des hommes, des enfants dans ces pays dans des conditions dignes de l'esclavage. La bourgeoisie est une classe qui a une très forte conscience de ses intérêts avec, pour baromètre, l'état de ses coffres-forts. Elle ne renonce jamais. Ce qu'elle a dû céder face aux luttes, elle espère bien le reconquérir un jour, quel que soit le temps qu'il lui faudra pour cela. Et la seule force qui puisse l'en empêcher, c'est le mouvement ouvrier et personne d'autre. Si celui-ci est défaillant, et c'est ce qui se passe depuis des dizaines d'années, alors la bourgeoisie n'a aucune raison de se priver d'essayer de reprendre tout ce que nous avons gagné en 2 siècles de lutte. Les syndicats et les réformistes peuvent toujours pleurer sur le fait que le patronat touche aux acquis sociaux, ça ne changera rien. Dans la société capitaliste, il n'y a jamais rien d'acquis pour les exploiter. Les acquis n'existent qu'à partir du moment où l'on a la force de les défendre. Oui, depuis que le capitalisme existe, les conditions de vie des travailleurs dépendent de leur capacité à imposer un rapport de force, jamais de la générosité de la bourgeoisie. Depuis qu'existe le capitalisme, il y a une lutte permanente entre les exploiteurs et les exploités. Et cette lutte ne s'achèvera que lorsque les exploiteurs auront été définitivement expropriés par une révolution ouvrière. D'ici là, le patronat cherchera toujours à regagner ce qu'il a perdu. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner la lutte. Au contraire. Oui, les patrons, par exemple, ont réussi à supprimer la retraite à 60 ans. Mais pourtant, ils ont bien plus les moyens de la payer qu'ils l'avaient dans le passé. Alors il faudra se battre pour la récupérer. Et ceux qui pensent que ce ne sera plus possible, eh bien, camarades, ils ont tort. Il n'y aura rien d'impossible quand la classe ouvrière relèvera la tête. La seule chose qui permette au patronat de faire pleuvoir les coups aujourd'hui, c'est le fait qu'à cause de la crise, du chômage, de la dépolitisation, de la démoralisation, des innombrables trahisons de ceux qui se prétendaient les partis de gauche, la classe ouvrière est aujourd'hui absente de la scène politique. Mais sa force est intacte et rien n'a changé de ce point de vue. Il existe toujours 25 millions de prolétaires dans ce pays qui ont entre leurs mains toute l'économie, qui font tout fonctionner, sans lesquels rien n'existerait, rien ne serait produit, rien ne serait conçu, ni acheté, ni vendu, ni transporté. Alors, lorsque les travailleurs reprendront conscience de cette force collective qu'ils représentent, et lorsqu'ils s'en serviront, eh bien, croyez-moi, notre classe regagnera tout le terrain perdu, et bien plus encore. Ce ne sont pas les militants de lutte ouvrière, ni ceux d'aucun parti d'ailleurs, qui pourront faire en sorte que cette colère explose. Nous ne savons pas ni quand, ni pourquoi l'explosion sociale se produira. Quelle mesure de trop prendra ce gouvernement ou un autre, qui jettera dans la rue des dizaines de millions d'hommes et de femmes en colère. Nous savons en revanche qu'une telle explosion est la seule chose qui puisse inverser le cours des choses. Et nous savons que lorsqu'elle aura lieu, La seule façon de la faire triompher sera de se battre pour des revendications qui remettent réellement en cause la dictature du grand patronat sur la société. Qu'il faudra que la classe ouvrière apparaisse non comme une classe qui se bat pour son seul compte, mais qui offre des perspectives bien au-delà de ses seuls intérêts. Qu'elle apparaisse comme ce qu'elle est, la seule classe capable d'entraîner derrière elle toutes les autres couches sociales contre leur ennemi commun, la grande bourgeoisie. Face à la crise qui se prolonge et qui s'aggrave, tous les politiciens, tous ces pseudo-faiseurs de miracles nous ressortent à chaque élection de nouvelles recettes pour soi-disant résoudre la crise ou pour sortir l'économie du marasme. Ce sont tous des menteurs. La crise économique, elle ne dépend pas d'eux, elle est inhérente au capitalisme. Alors le problème, notre problème, ce n'est pas l'état de l'économie, ce n'est pas le taux de croissance, ce n'est pas la dette ni le déficit de l'État, c'est de sauver notre peau à nous, les travailleurs, et par la même occasion, celle de toutes les autres couches sociales victimes de la crise, dont les grands capitalistes se moquent finalement autant qu'ils se moquent des ouvriers. C'est l'objectif du programme que nous défendons face à la crise. Un programme des mots d'ordre qui, je le répète, n'ont pas pour but de redresser l'économie, mais de préserver la population de la déchéance et de la misère. Oui, il faut interdire les licenciements pour stopper net l'hémorragie du chômage et imposer la répartition du travail entre tous sans baisse de salaire. Oui, il faut augmenter les salaires jusqu'à un niveau qui permette de vivre correctement. Et il faut garantir leur pouvoir d'achat par l'échelle mobile des salaires et des pensions. C'est-à-dire qu'il faut, pour que les travailleurs, les chômeurs, les retraités cessent de devenir chaque mois un peu plus pauvres, que les salaires, que les pensions augmentent au même rythme que les prix. Oui, enfin, il faut imposer la suppression du secret des affaires afin que la population puisse connaître les comptes des entreprises et ceux de leurs propriétaires et actionnaires pour savoir où est l'argent et où il va, pour mettre au jour toutes les magouilles pour connaître l'état de la fortune de tous ceux qui décident de nos licenciements. Toutes ces revendications... Toutes ces revendications sont vitales pour les salariés eux-mêmes, mais elles pourraient aussi être un drapeau derrière lequel pourraient se retrouver tous ceux qui sont, à un degré ou à un autre, victimes du capitalisme. Ces mots d'ordre, on nous dira que les travailleurs ne sont pas prêts à les défendre aujourd'hui, c'est vrai. Mais cela ne les rend pas moins justes, pas moins indispensables. Imposer ces mesures, ce serait la seule façon de sauver notre peau, il n'y en a pas d'autre. Les travailleurs se battront pour l'imposer ou pas, nous ne pouvons pas le savoir. Mais en revanche, nous pouvons être certains qu'il n'y a pas d'autre remède. Face au cancer, il y a bien des hôpitaux dans le monde où la chimiothérapie n'existe pas. Mais même là où elle n'existe pas, elle reste le seul remède valable contre la maladie. Et tout le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est en prenant l'initiative du combat contre le grand capital que la classe ouvrière a une chance d'entraîner derrière elle une partie de la petite bourgeoisie. Nous ne pouvons que reprendre mot pour mot ce que Léon Trotsky écrivait à ce sujet en 1938 déjà. Je cite « Les paysans, les artisans, les commerçants, la main dans la main avec les ouvriers, doivent s'immiscer activement dans la politique des prix. Aux lamentations des capitalistes sur les frais de production, de transport et de commerce, les consommateurs répondront « Montrez-nous vos livres, nous exigeons le contrôle sur la politique des prix ». À Lutte ouvrière, nous avons toujours défendu l'idée que la classe ouvrière a le droit moral de se battre pour défendre son niveau de vie et pour ne pas tomber dans la misère. Mais ce droit, elle l'a d'autant plus qu'en se sauvant elle-même par ses luttes, la classe ouvrière offrira des perspectives à tout le reste de la population. Voilà les idées que nous devons défendre en ce moment, les idées que nous défendrons dans la campagne électorale comme nous le faisons tous les jours, dans les entreprises et les quartiers où nous intervenons. Défendre autour de soi et développer ses idées est plus que jamais vital dans la période que nous traversons. Précisément parce qu'elles sont en recul, parce que les partis de gauche eux-mêmes y ont non seulement renoncé, mais les combattent, notre responsabilité est de garder ces idées vivantes et de tenir fièrement le drapeau bien haut. Et ce combat, il se mène avant tout dans les entreprises, c'est-à-dire là où se trouvent les travailleurs. Dans les entreprises où un seul communiste peut jouer un rôle irremplaçable, le jour où les luttes explosent, bien sûr, en étant à même ce jour-là d'être celui qui proposera les idées et le programme juste, mais y compris au jour le jour, y compris dans les périodes difficiles, en étant celui ou celle qui remonte le moral, qui montre à ses camarades de travail, envers et contre tout, d'autres comportements, d'autres perspectives, une autre morale que le chacun pour soi, l'individualisme, la lutte de tous contre tous. En étant celui ou celle qui ne renonce jamais, qui ne baisse ni la tête, ni les bras, qui refuse de plier la nuque devant les patrons, aussi bien que devant les impératifs de l'économie ou les nécessités de la compétitivité. En étant celui ou celle que les arguments des patrons ne convaincront jamais, qui ne se résignera jamais à admettre que les profits de quelques parasites valent plus que la vie de ceux qui les fabriquent. Militer dans les conditions où nous sommes n'est pas toujours facile. Mais c'est celui ou celle qui aura milité comme cela pendant des années, précisément parce qu'il a milité comme cela, que les travailleurs suivront lorsque l'heure des luttes sera venue. Avec mes camarades de PSA Aulnay, nous avons, à une toute petite échelle, vécu ça. Or, bien sûr, la grève que nous avons menée contre la fermeture de l'usine ne s'est pas étendue. Elle n'a pas réussi à empêcher le patron d'arriver à ses fins. Mais elle a réussi tout de même à entraîner quelques centaines de travailleurs, les plus déterminés, les plus combatifs, qui ont montré au cours de 4 mois de grève des trésors de dévouement, de combativité, d'inventivité, de discipline, de courage. Ils ont montré à une petite échelle de quoi la classe ouvrière est capable quand elle rentre en lutte, et le soutien moral massif de milliers et de milliers de personnes dont nous avons bénéficié pendant la grève montre à quel point, dès que des travailleurs relèvent la tête, cela donne de l'espoir à d'autres. Rien que pour ça, cela valait 100 fois, 1000 fois la peine. Oui, il faut dans les entreprises et les quartiers des militants qui transmettent les idées et l'expérience du mouvement ouvrier. Et il est tout aussi indispensable que ces militants aient autour d'eux des relais, des sympathies, des milliers d'hommes et de femmes, de jeunes, de travailleurs, de chômeurs, de mères de famille, de retraités ou de lycéens qui, à leur niveau, à leur façon, refusent aussi de se résigner. Par exemple, en nous ayant aidés à constituer nos listes aux municipales, pour que nos idées puissent apparaître dans ces élections, ou en étant tout simplement capables de défendre leurs convictions et de les faire entendre dans une simple discussion à la machine à café, au marché, en bas d'un immeuble ou dans un repas de famille. C'est à ce prix que les idées communistes reprendront le haut du pavé, à travers un parti qui sera fait de la somme de toutes ces énergies. Ce parti, camarades, nous militons pour le construire et nous ne doutons pas qu'il verra le jour tôt ou tard. Tout comme nous ne doutons pas que de la braise qu'entretiennent tous ces militants et ces sympathisants du communisme jaillira un jour la flamme qui embrasera toute la société et permettra d'en finir une fois pour toutes avec ce monde pourri. Vive la classe ouvrière, vive le communisme.